en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le développement végétatif des plantes, c'était le thème de la séance conjointe de l'Académie des sciences et de l'Académie nationale d'agriculture qui s'est déroulée en mars 2009 et que nous vous proposons d'écouter dans quelques instants. Le sujet vous semble simple, ne vous y trompez pas, les chercheurs ont encore de nombreux mystères à percer quant au règne végétal. Toute plante a son architecture propre, de la pointe des racines à celle des feuilles. Comment les racines perçoivent-elles la présence des sels minéraux nutritifs et comment réagissent-elles à leur carence? Comment le sommet de la tige choisit-il d'initier un rameau, une feuille ou une fleur? Les intervenants de cette séance vous apportent des éléments de réponse. Cette retransmission vous est proposée en deux parties. Dans ce deuxième volet, écoutez Catherine Rameau, directeur de recherche à l'INRA, station de génétique et amélioration des plantes à Versailles. Elle s'intéresse aux strigolactones, hormones qui contrôlent la ramification des plantes. Le deuxième intervenant est Patrick Loves, directeur de recherche à l'INRA, au laboratoire de biologie cellulaire à Versailles. Il évoque pour sa part le développement des feuilles. Christian Dumas, membre de l'Académie des sciences, biologiste et botaniste, conclut cette séance. Tout de suite, Catherine Rameau.
Bien, donc je vais vous parler de ramification, c'est-à-dire du développement des tiges des plantes et d'une nouvelle hormone végétale, donc les strigolactones, qui viennent d'être identifiées, qui contrôlent ce degré de ramification. Alors en général, les plantes cultivées pour la production de grains ont été sélectionnées. On peut constater une forte diminution de la ramification de ces plantes par rapport à la plante sauvage ancestrale. Donc l'exemple du maïs ici avec le théosinte, ou l'exemple du tournesol, chez lequel aussi on a une seule tige avec une fleur de taille importante et qui va produire des graines de grosse taille et riches en huile. Alors d'où proviennent ces ramifications? Donc là, comme on l'a vu dans les exposés précédents, au cours de l'embryogenèse, on a formation d'un méristème apical collinaire qui va donner la tige principale, un méristème apical racinaire. Alors au niveau de la tige, au cours du développement post-embryonnaire, on va voir l'initiation de méristèmes axillaires qui vont être initiés à l'aisselle des feuilles et qui ont la même structure que le méristème apical. Ces méristèmes axillaires vont initier un certain nombre de feuilles pour former un bourgeon axillaire situé donc à l'aisselle des feuilles. Et au cours du développement, ce bourgeon axillaire va soit rester dormant, soit entrer en croissance pour donner une nouvelle tige. Alors, de nombreux facteurs contrôlent ce développement ou ce maintien à l'état dormant des bourgeons axillaires, dont des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. Un exemple de facteur environnemental, c'est la longueur du jour, la photopériode. Vous avez ici une plante de pois de même génotype qui a poussé dans des conditions de photopériode jour court jusqu'à des jours continus. Et on voit que les jours courts induisent le développement de ramification basale, contrairement à la plante unitige qui a poussé dans des jours continus. En ce qui concerne les gènes qui contrôlent la ramification, on peut les classer en deux catégories, ceux qui vont avoir un effet spécifique sur la ramification, notamment les gènes Ramosus et Rames dont je vais vous parler par la suite, et des gènes par exemple qui contrôlent le passage à l'état floral et qui ont des effets aussi importants sur le degré de ramification de la plante. Vous avez ici un mutant qui ne va pas fleurir et qui présente un taux de ramification supérieur très important par rapport au type sauvage. Alors on s'intéresse depuis de nombreuses années à ce contrôle de la ramification, notamment par des expériences de décapitation où on va retirer le bourgeon apical, ce qui va induire le développement des bourgeons axillaires qui étaient jusque-là dormants. En fait, ce type de mécanisme est un peu une tolérance aux herbivores, hein, puisque si le bourgeon apical est détruit, la plante va quand même arriver à se reproduire du fait de la présence de ces bourgeons axillaires et de leur développement en ramification. Alors, on sait que le bourgeon apical est une source importante d'auxine. Et en fait, on a constaté que si après décapitation, on applique de l'auxine sur l'apex décapité, de nouveau, on induit la dormance des bourgeons axillaires. Donc, de nombreuses autres études ont abouti à une théorie classique de la dominance apicale, dans laquelle l'apex de la plante, qui produit de l'auxine qui va être transportée dans la tige, va inhiber le démarrage des bourgeons axillaires, alors qu'une autre hormone, les cytokinines, produites plutôt au niveau des racines et transportées vers les tiges de la plante, ont un effet plutôt activateur du bourgeon axillaire. C'est-à-dire que si on applique des cytokinines sur ce bourgeon axillaire, ça va induire son démarrage. Mais très vite, on a, notamment Snow, a suggéré l'existence d'un messager secondaire à l'auxine. Notamment, on sait que si on applique, après décapitation, l'auxine directement sur le bourgeon axillaire, on ne va pas empêcher son démarrage. Ce qui suggère qu'il y avait une substance qui agissait en aval de l'auxine pour inhiber le démarrage du bourgeon axillaire. Et on cherche depuis longtemps à identifier ce messager secondaire. Alors l'approche mutant est la plus efficace pour identifier les gènes qui contrôlent la ramification de la plante. Donc par mutagénèse sur le poids, on a identifié des mutants hyper ramifiés par rapport au type sauvage, mutants chez lesquels la plupart des bourgeons axillaires vont démarrer. Ces mutants correspondent à des gènes donc appelés ramosus chez le poids. Alors le poids, est du fait de son architecture relativement simple, s'adapte très bien à des expériences physiologiques pour caractériser ces mutants et pour avoir une meilleure idée du fonctionnement, de la fonction de ces gènes, des gènes mutés, notamment par des expériences de greffe ou de quantification hormonale, notamment quantifier les cytokinines dans la sève brute qui provient des racines. Donc là, c'est la méthode par laquelle on récolte la sève brute provenant des racines, avec une seringue dans laquelle on effectue le vide. Vous voyez une expérience de greffe réciproque entre le type sauvage et le mutant hyper ramifié RMS1. Et dans cette combinaison de greffe dans laquelle on a greffé une tige mutante sur des racines sauvages, on voit que ces racines sauvages sont capables d'inhiber la ramification de la tige mutante, ce qui suggère que ce gène RMS1 contrôle un signal transmissible par greffe et qui a un rôle dans l'inhibition de la ramification. Cette combinaison de greffe suggère que ce signal est aussi produit dans la tige, puisque quand on greffe une tige sauvage sur des racines mutantes, on a une tige non ramifiée. Alors, bien d'autres expériences, notamment des quantifications hormonales, suggéraient que ce signal inhibiteur de la ramification n'était pas une hormone connue, ni l'auxine, ni les cytokinines. Alors, cette expérience où on greffe un tout petit bout de tissu sauvage montre qu'il suffit de quelques centimètres de tissu sauvage pour inhiber la ramification dans les tiges mutantes, ce qui suggère que ce signal peut agir à très faible concentration. Dans cette expérience de greffe avec un autre mutant, le mutant RMS4, on voit ici que, quelles que soient les racines de la combinaison de greffe, la ramification n'est pas inhibée dans la tige mutante, ce qui suggère que ce gène RMS4 contrôle plutôt la réponse au signal répresseur de la ramification. On aurait donc deux types de gènes, des gènes qui contrôlent la biosynthèse du signal réprimant la ramification et des gènes contrôlant la réponse au signal. Alors bien sûr, on voulait cloner les gènes correspondant à ces mutations. Alors là, le poids n'est pas tout à fait adapté au clonage des gènes, vu la taille de son génome. Donc pour cela, on utilise les informations obtenues dans l'espèce modèle Arapidopsis thaliana, et notamment les résultats obtenus par le groupe d'Otoline Laser à York sur Arabidopsis. Donc elle a aussi identifié des mutants hyper ramifiés d'Arabidopsis, qu'elle appelle Max. Et donc les gènes ont été clonés par son groupe. Et deux de ces gènes codent des enzymes qui interviennent dans le métabolisme des caroténoïdes. Un autre gène code pour une autre enzyme, un cytochrome P450. Et le gène MAX2 code pour une protéine à FBOX qui suggère que, comme pour les autres hormones, le contrôle de la ramification implique des phénomènes de dégradation de protéines par le protéasome. Donc on a cherché les homologues de ces gènes d'Arabidopsis chez le poids, qu'on a cartographiés, et on voit qu'ils colocalisent avec nos gènes RMS de poids. Ainsi, donc, on a ces gènes contrôlant la biosynthèse de ce nouveau signal impliqué dans le métabolisme des caroténoïdes, ce qui peut suggérer que ce signal qu'on recherche est un dérivé de caroténoïdes, et le gène de la, contrôlant la réponse au signal est un code pour une protéine AFBOX, ce qui pourrait suggérer que ce gène est un récepteur de ce signal. Ces mêmes gènes sont retrouvés chez d'autres espèces dans lesquelles les programmes de mutagénèse ont été réalisés, comme le riz ou le pétunia. On retrouve même ces gènes chez des mousses, l'espèce Physcomitrella patens. Et on a montré d'ailleurs qu'en obtenant un mutant pour le gène de biosynthèse chez la mousse par ciblage de gènes, hein, puisque la recombinaison homologue est très efficace chez cette plante, on a montré que ces gènes aussi jouent sur le développement de la mousse, notamment sur la ramification des filaments. Alors, quelle est la nature de ce signal répresseur de la ramification? En fait, un article majeur qui nous a mis sur la piste a été celui du groupe de Baumeister, publié en 2005, qui montre que des composés, les strigolactones, qui sont connus pour intervenir dans induire la germination de graines de plantes parasites, striga et orobanche, sont dérivés de la voie caroténoïde. Donc ce qui en faisait des candidats éventuels pour correspondre à notre signal de ramification. Alors ces strigolactones, en fait, sont exudés par les racines des plantes dans la rhizosphère et vont induire, donc, comme je l'ai dit, la germination de ces graines de plantes parasites, hein, qui causent des dégâts très importants, surtout en Afrique, pour les strigas. Donc ces graines vont germer, et du fait de la présence de ces strigolactones, qui signalent la présence d'une plante hôte, hein, la présence de racines d'une plante hôte. Et plus récemment, il a été montré que ces mêmes molécules aussi activaient la ramification, stimulaient le développement des hyphes du champignon mycorhizien, qui est impliqué dans l'interaction symbiotique, dans la symbiose mycorhizienne à arbuscule et qui est très répandue chez les plantes. Alors on en revient à notre question, est-ce que les strigolactones correspondent à notre signal? Donc il fallait d'abord voir si nos mutants RMS1 et 5 étaient déficients en strigolactones. Donc dans un premier temps, des tests biologiques utilisant la germination de graines d'orobanche ont été réalisés en récoltant les exudats racinaires de nos mutants RMS1. On constate que ces exudats n'induisent pas la germination ou très faiblement la germination des graines d'orobanche par rapport au type sauvage ou par rapport au contrôle, hein, là, en utilisant une strigolactone synthétique GR24. Alors bien sûr, d'autres études ont été réalisées, notamment avec le champignon mycorhizien, et la déficience en strigolactone a été validée par des analyses en spectrométrie de masse. L'autre question, c'était est-ce que les strigolactones inhibent la ramification? Donc on a réalisé des expériences simples où on appliquait chez le mutant déficient des strigolactones sur le bourgeon axillaire et on voit qu'on avait une très forte inhibition du démarrage de ces bourgeons par rapport aux témoins au contrôle où les bourgeons axillaires démarrent. Bien sûr, le même type d'expérience a été réalisé avec le mutant de réponse et on voit que ce mutant de réponse ne répond pas à l'application de strigolactones, ce qui valide la spécificité d'action de ces molécules. D'autres types d'applications ont été mises au point, notamment des injections dans la tige de strigolactones qui permettent d'inhiber les bourgeons situés au-dessus du site d'injection, ce qui correspond à ce qu'on connaissait sur le signal qui peut aller que dans une seule direction, ce qui suggère qu'il est véhiculé dans la sève brute du xylème. Et on voit qu'on a une diminution de la croissance du bourgeon en fonction de la concentration en strigolactone. Donc si on définit les hormones comme de petites molécules qui peuvent être mobiles dans la plante, qui agissent à très faible concentration et qui contrôlent la croissance et le développement de la plante, on peut conclure que les strigolactones peuvent être ajoutés dans la liste des hormones des plantes, comme l'auxine et les cytokinines. Alors si je reviens aux expériences de départ de décapitation de la plante, vous avez ici une expérience où on a décapité la plante. Ce sont des photos effectuées 9 jours après décapitation. Donc là, les ramifications ont déjà une taille importante. Et on voit qu'en appliquant des strigolactones sur le bourgeon axillaire, sans ajouter de l'auxine, on peut inhiber ce bourgeon axillaire, ce qui suggère que les strigolactones seraient le messager secondaire. Donc, on pense qu'en fait, ce qui se passe au moment de la décapitation, c'est que donc on a une très forte baisse de teneur en auxine dans la tige, ce qui induit une diminution de la synthèse de strigolactones, parce qu'on sait qu'on a constaté que après décapitation, on a une très forte chute de l'expression des gènes de biosynthèse de strigolactones. Donc toutes ces expériences suggèrent que effectivement les strigolactones seraient le messager secondaire de l'auxine. Donc je voulais remercier bien sûr mon équipe à Versailles, travaillant sur le poids ou sur la mousse, mais surtout l'équipe de Christine Beveridge, avec laquelle on travaille depuis de nombreuses années pour comprendre la ramification chez le poids, et l'équipe de Guillaume Bécard à Toulouse, qui nous a mis sur la piste des strigolactones. Je vous remercie.
Donc d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette session de m'avoir invité à présenter ce qu'on connaît sur le développement des feuilles. Donc je vais présenter en fait essentiellement des données un petit peu bibliographiques provenant d'autres équipes, et puis je vais finir sur de façon un peu plus détaillée sur ce qu'on a fait récemment dans ce domaine-là. Donc les feuilles peuvent présenter une grande diversité de morphologie. On peut néanmoins les classer en deux grands types. On a d'une part, comme ici, des feuilles simples, formées par une seule unité, le limbe, et des feuilles dites composées, formées par plusieurs sous-unités, qu'on appelle des folioles, qui sont réunies, selon différents types d'architecture, sur un axe. En plus de cette différence entre feuilles simples et feuilles composées, on peut observer également sur le bord de la feuille, ici à la marge, différents niveaux de découpe, puisqu'on peut avoir des extrêmes allant de feuilles complètement simples, comme ici, à des feuilles très très découpées, présentant un premier lobe très important, et ensuite une multitude de petites découpes très très fines. Donc, malgré cette grande diversité dans la forme de la feuille, toutes ces structures proviennent d'une structure qu'on appelle un primordium, dont vous avez déjà entendu parler, et l'ensemble des primordia ont initialement une structure identique. C'est au cours du développement ultérieur de ce primordium que va se mettre en place la forme de la feuille. Donc de façon très très schématique, on peut avoir soit un développement relativement simple et direct qui va donner naissance aux feuilles simples, soit un développement un petit peu plus complexe qui passe par la mise en place sur le bord de la feuille ici d'une zone qu'on appelle la blastozone, dans laquelle les cellules vont conserver un caractère méristématique, donc vont pouvoir continuer à se proliférer et à grandir. Et c'est à partir de cette zone marginale que vont être initiés les primordia des folioles pour donner naissance aux structures composées. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux aspects du développement foliaire. Premièrement, toute cette problématique ici de la mise en place des folioles, de la régulation de leur position et de ces différents aspects. Mais avant ça, je vais commencer par un aspect qui est commun à l'ensemble des feuilles, qui sont, par définition, des structures plates et qui sont également polarisées. Donc cette polarité, cette polarisation de la feuille, elle est très facilement visible à partir du moment où on s'intéresse, par exemple, au type cellulaire et à leur répartition au sein de la feuille. Donc par exemple, ici, vous avez deux images de l'épiderme sur la face supérieure qu'on appelle aussi dorsale ou adaxiale, ou sur la face inférieure qu'on appelle également ventrale ou abaxiale. Et on voit très bien que, par exemple, la taille des cellules est différente. On va aussi avoir une différence de distribution des stomates, ces petits pores qui sont des petites ouvertures vers l'intérieur de la feuille. Et la polarisation touche également, évidemment, les tissus internes, puisqu'on va avoir, par exemple, au niveau des vaisseaux, le xylème qui transporte la sève brute en position dorsale, alors que le phloème qui transporte la sève élaborée se trouve en position ventrale. Alors, la mise en place et le contrôle de cette polarisation au sein de la feuille est quelque chose qui est relativement bien connu depuis quelques années, et ça fait intervenir deux séries de gènes qui déterminent respectivement l'identité adaxiale et l'identité abaxiale. Donc ces gènes codent pour des facteurs de transcription, on ne va pas rentrer dans le détail, mais la première caractéristique de ces gènes, c'est qu'ils sont exprimés de façon spécifique dans une partie du primordium. Donc sur cette image ici, vous avez une coupe longitudinale d'un apex, avec le méristème ici, un primordium, une petite feuille en croissance, et on voit que l'expression d'un de ces gènes qui détermine l'identité adaxiale est limitée à une moitié du primordium ici, la moitié adaxiale. Et puis on a une situation complémentaire, réciproque, pour les marqueurs du côté abaxial. Donc ces gènes sont exprimés de façon spécifique et ils déterminent également, ils confèrent l'identité aux cellules dans lesquelles ils sont exprimés. Et ça, ça a été montré en analysant soit des mutants, soit des plantes transgéniques, où on force l'expression de ces gènes à l'ensemble du primordium. Donc au lieu de les avoir juste dans une moitié de primordium, on les exprime de façon artificielle dans l'ensemble du primordium. Et ce qu'on observe dans ce cas-là, c'est que la feuille va modifier complètement d'aspect. On ne va plus avoir un aspect foliacé, mais une structure en forme de doigt. Et on va également perdre la polarisation, puisque si on s'intéresse au caractère cellulaire, on se rend compte que ces structures-là sont homogènes sur tout le pourtour de la feuille. Et l'identité va être déterminée par le type de gène qui va être exprimé. Donc, par exemple, ici, dans ce schéma-là, on exprime de façon uniforme dans toute la feuille un gène qui confère l'identité adaxiale, et on voit que l'ensemble de la feuille va avoir une identité adaxiale. Inversement, si on exprime partout dans le primordium des gènes qui contrôlent l'identité abaxiale, eh bien, on va avoir une identité abaxiale. Le dernier aspect de ce système, c'est que il existe un antagonisme entre ces deux familles de gènes. Et cet antagonisme est visible déjà ici par la complémentarité des domaines d'expression des deux séries de gènes, et également ici, puisque si on force l'expression, par exemple, d'un gène adaxial, on va perdre l'expression de tous les gènes d'identité abaxiale. Donc on a un système relativement simple avec deux séries de gènes qui sont antagonistes, qui contrôlent l'identité des deux parties de la feuille. Un autre aspect que vous pouvez remarquer ici, c'est qu'à partir du moment où on perd la polarisation, on perd également l'aspect foliacé, puisqu'on n'a plus une structure plate, mais une structure en forme de doigt. Donc ça a amené l'hypothèse suivante, qu'il faudrait en fait la juxtaposition des deux domaines, adaxio et abaxio, pour pouvoir induire la croissance, l'expansion du limbe, c'est-à-dire de la partie vraiment plate de la feuille. Et cette hypothèse est renforcée, par exemple, par cette observation ici. Donc il s'agit d'une feuille d'antirrhinum, donc du mufflier. Il s'agit d'un mutant qui s'appelle Fantastica, qui ne présente pas globalement de modification vraiment dramatique de la polarité, puisqu'on a toujours un domaine adaxial et un domaine abaxial. Mais sur le côté adaxial, on a quelques îlots de cellules qui ont une identité abaxiale représentée ici en bleu. Et au niveau de cette zone où les deux domaines sont juxtaposés, on va avoir croissance de structures qui ressemblent un petit peu à des ébauches de limbe. Donc ça renforce l'idée qu'il faut avoir effectivement juxtaposition très proche de cellules qui expriment des caractères adaxiaux et des caractères abaxiaux pour induire la formation et l'expansion latérale du limbe. Donc tout ceci est représenté ici. On a deux séries de gènes qui déterminent l'identité adaxiale et abaxio. Les deux groupes de gènes ont une relation antagoniste et il faut avoir juxtaposition des deux identités pour avoir expansion du limbe. À ce système relativement simple se rajoutent d'autres composants. Donc on a par exemple un micro-ARN. Donc les micro-ARN, ce sont des petits ARN régulateurs qui ont été récemment identifiés et qui peuvent réguler l'expression d'un certain nombre de gènes cibles. Et un de ces micro-ARN, miR-166, régule l'expression de ces marqueurs, enfin de ces gènes d'identité adaxiale. On a également implication de facteurs de transcription qui sont impliqués dans la signalisation auxinique, donc l'auxine dont vous avez déjà entendu parler dans les précédents exposés. Et puis, dernier élément, une autre classe de petits ARN qui s'appelle les trans-acting siARN qui régule l'expression de ce gène-là. Donc on a un système qui est relativement complexe, mais qui quand même a une structure relativement simple. Alors une des questions, et c'est la question qu'avait posée avant Guy Paillotin, c'est comment on va mettre en place la symétrie. Donc un tel système, c'est parfait pour maintenir la symétrie. Par contre, comment est-ce qu'on va la générer ? Alors, comment est-ce qu'on va la générer? Il y a des expériences relativement anciennes qui ont été réalisées, où on a fait de la microchirurgie sur les apex, en faisant des incisions, ici, pour séparer un primordium du méristème. Lorsqu'on fait une incision à un stade relativement avancé, lorsque le primordium est déjà polarisé, la polarité ne va pas disparaître, elle va être maintenue, ce qui est tout à fait logique puisqu'on a déjà probablement mis en place des deux systèmes et l'antagonisme entre les deux groupes de gènes va suffire à maintenir la polarité. Par contre, si on fait une incision beaucoup plus précocement, avant que le primordium ne soit polarisé, la polarisation n'apparaît pas et on va avoir une structure abaxialisée qui va se développer. Donc ça nous indique deux choses. Ça nous indique que probablement il faut un signal provenant du méristème qui va générer la polarité. En faisant cette incision, on va couper la propagation de ce signal et que ce signal va aussi permettre de mettre en place l'identité adaxiale qui n'est pas présente ici lorsqu'on manipule le méristème. Alors, quel pourrait être ce signal mobile? C'est une question qui est encore en suspens, mais il y a des indications très récentes qui feraient penser qu'il pourrait s'agir ici d'une classe de petits ARN qui pourrait être produit du côté du méristème et diffusé en gradient vers le primordium et ainsi permettre l'initiation de la polarisation au sein de la feuille. Alors voilà pour l'aspect, disons, général des feuilles, donc comment se met en place la polarisation. Ce que je voudrais continuer à développer maintenant, c'est comment se met en place un caractère beaucoup plus complexe, ici le caractère composé de la feuille. Mais avant ça, il faut que je vous indique une caractéristique qui est commune à l'ensemble des feuilles, qui est celle-ci. Donc vous avez ici un méristème avec des petits primordiums de feuilles en train de se développer, et ici un primordium, un initium très jeune, donc des cellules qui, bientôt, devraient donner une feuille. Le marquage, ici, vous voyez, c'est un marquage qui révèle l'expression d'un gène qui fait partie d'une famille qu'on appelle les gènes NOX. Donc ces gènes, comme vous voyez ici, sont exprimés dans le méristème, et leur expression est nécessaire pour maintenir les cellules dans un état indifférencié méristématique. Pour avoir l'initiation d'un primordium, les cellules vont arrêter d'exprimer ce gène, ce qui va permettre au primordium de se mettre en place et de grandir. Et donc l'arrêt de l'expression de ces gènes NOX est indispensable au développement normal de la feuille, parce que si on surexprime de façon artificielle ces gènes dans la feuille, par exemple dans la plante modèle Arabidopsis qui avait été introduite tout au début par Laurent Nussaum, on va modifier la forme de la feuille d'Arabidopsis, qui est une feuille simple, entière, en une structure comme ça, beaucoup plus découpée. Si on applique maintenant une classe de phytohormones dont vous avez également déjà entendu parler, les gibérélines, à ces plantes qui surexpriment les gènes NOX, on voit qu'on peut partiellement corriger les défauts du développement foliaire, puisqu'on retrouve une structure qui ressemble un petit peu à celle du sauvage. Et en fait, il a été montré que les gènes NOX codent pour des facteurs de transcription qui peuvent se lier à des gènes de biosynthèse de gibérélines et inhiber leur expression. Donc dans ces plantes-là, ici, au niveau de la feuille, en surexprimant les gènes NOX, on va bloquer la voie de signalisation par les gibérélines, qu'on peut rétablir de façon artificielle en appliquant de façon exogène des gibérélines. Donc l'idée toute simple de ce système-là, c'est que dans le méristème, on va avoir les gènes NOX qui seront exprimés, qui vont réprimer la voie de signalisation par des gibérélines, et au contraire, dans les feuilles, cette répression va être levée, les gibérélines vont être produites, vont être actives, et vont avoir pour effet d'induire le grandissement cellulaire, la croissance cellulaire et autoriser la différenciation et donc la sortie de l'état méristématique. Donc ce système-là, à savoir la répression des gènes NOX, c'est quelque chose qui est universel pour l'ensemble des feuilles, en tout cas pour l'ensemble des feuilles des plantes supérieures, qu'elles donnent des feuilles simples ou des feuilles composées. Par contre, une différence fondamentale, c'est qu'au niveau des feuilles composées, cette répression des gènes, de l'expression des gènes NOX, n'est que transitoire, c'est-à-dire très rapidement, après avoir éteint, ils vont être réallumés au cours du développement de la feuille. Et comme ici, par exemple, vous voyez un immunomarquage, donc des anticorps dirigés contre les protéines de type NOX, on voit le méristème au centre, ici différentes feuilles, et on voit par exemple dans cette feuille-là un marquage, donc un réallumage, une expression rétablie de ces gènes NOX. Ici, c'est une coupe transversale d'une espèce voisine d'Arabidopsis qui forme, au contraire d'Arabidopsis, des feuilles composées. Donc on voit plusieurs folioles. Si maintenant on inactive les gènes NOX, on va convertir la feuille composée de cardamine en une structure simple. Donc, ce qui montre que non seulement ces protéines sont exprimées là-dedans, dans la feuille, mais sont aussi nécessaires à la mise en place des folioles. Et inversement, si on surexprime les gènes NOX, on va observer la formation de folioles ectopiques. Donc ce système-là, donc le réallumage des gènes NOX au cours du développement de la feuille, c'est un système qui est très, très, très répandu, observé chez quasiment la plupart des espèces à feuilles composées. Donc, par exemple, également chez la tomate, on n'a malheureusement pas encore de perte de fonction, donc on ne connaît pas le phénotype d'une feuille de tomate dépourvue de gènes NOX. Mais on sait déjà que si on la surexprime, on va avoir des structures très très ramifiées. Ce système, les gènes NOX, c'est un système quasi universel. Une des seules exceptions qu'on connaisse, c'est le pois. Donc chez le pois, on a également des feuilles composées, mais qui n'expriment pas les gènes NOX. À la place, elles expriment un autre gène qui s'appelle le gène LIFI, dont vous a parlé déjà un petit peu Yann, il y a deux présentations. Donc ce gène a été identifié initialement pour son rôle dans le contrôle de l'identité du méristème floral. Il a un tel rôle également chez le pois, mais en plus, il est aussi nécessaire à la mise en place des feuilles composées, puisque si on a un mutant dans l'orthologue du gène LIFI du pois, on va convertir la feuille composée en une structure simple. Alors, est-ce que ce rôle ici est propre au pois? Eh bien, probablement non, puisque chez la tomate, on a des mutants dans l'orthologue du gène LIFI qui présentent une simplification, que partielle, mais qui présentent quand même une simplification de l'architecture de la feuille. Donc, l'idée, c'est que probablement deux voies cohabitent au sein des feuilles composées, la voie NOX et la voie LIFI, qui permettent de maintenir une identité pseudo-méristématique sur le bord de la feuille et qui vont permettre donc l'émergence de nouveaux primordia des folioles. Alors une des questions qui se pose, c'est comment est contrôlée la position de ces primordia des folioles. Alors une étude a été faite sur un certain nombre d'espèces, présentant toutes des feuilles composées, mais avec différents types d'architectures, avec des architectures qu'on appelle pennées, où les folioles sont disposées le long d'un axe, ou des architectures palmées, où elles sont toutes insérées en un seul point. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une différence au niveau du primordium dans la distribution du domaine adaxial. Donc le même domaine dont je vous avais parlé tout au début pour la mise en place du limbe foliaire. Dans les espèces à feuilles pennées, on a un domaine adaxial qui s'étend ici sur l'ensemble du primordium. Et ce qui est observé, c'est que les folioles vont être initiées sur l'ensemble du primordium au niveau des zones de jonction entre le domaine adaxial et le domaine abaxial. Par contre, dans les feuilles palmées, le domaine adaxial se retrouve confiné à la partie distale du primordium. Et à nouveau, on va voir initiation des folioles au niveau de la jonction. Donc là, on retrouve quelque chose qui est tout à fait similaire conceptuellement à ce qu'on voyait lors du développement de la marge de la feuille, puisqu'on va avoir excroissance de quelque chose au niveau de la zone de cohabitation entre le domaine adaxial et abaxial. Donc ce système, ça permet de rendre compte globalement de l'architecture de la feuille. Mais comment est-ce qu'on va arriver à espacer ainsi régulièrement les primordia des folioles? Alors, à nouveau, on retrouve un acteur connu, à savoir l'auxine. La preuve que l'auxine est impliquée dans l'ensemble de ces phénomènes, c'est que si on bloque le transport polarisé de l'auxine, on va modifier la feuille de cardamine, éliminer une partie des folioles, et si on bloque la réponse à l'auxine, on va également modifier la feuille de tomate, la simplifier et avoir une structure comme ceci. Alors, où se trouve l'activité auxinique? On peut la suivre en utilisant un marqueur, ici. Donc on a expression de la GFP, une protéine fluorescente, au niveau des sites d'activité d'auxine, et on voit que ces sites d'activité d'auxine coïncident avec les sites d'initiation des folioles. Donc on retrouve quelque chose qu'on voyait également dans le méristème, c'est-à-dire au niveau des sites d'initiation des primordia de feuille, on a des activités d'auxine, et on retrouve quelque chose de tout à fait similaire ici dans la feuille. Au niveau des sites d'initiation des folioles, on retrouve des activités maximum d'auxine. Et effectivement, l'auxine est impliquée, puisque si on l'applique de façon exogène, de façon ectopique, on voit une initiation de structures qui ressemblent à des folioles. Donc l'auxine permet de déterminer finement les sites d'initiation des folioles. Alors maintenant, comment va-t-on individualiser les folioles ? À nouveau, on retrouve des acteurs qu'on connaissait déjà à partir du méristème. Il s'agit des gènes de frontière NAMQUK qui sont exprimés dans les frontières. Donc à nouveau, là, vous avez une coupe longitudinale, le méristème, un petit primordium. L'expression d'un de ces gènes, ici, est confinée à la zone frontière entre le méristème et le primordium. Et si on inactive ces gènes, on va avoir des fusions entre les organes. Par exemple, ici, les sépales de la fleur se retrouvent fusionnés dans le cas d'une inactivation de ces gènes-là. Ce qu'on avait montré précédemment, c'est que ces gènes étaient aussi impliqués dans le développement de la feuille d'Arabidopsis, puisque dans les mutants de certains de ces gènes, on va avoir une feuille qui va être complètement lisse, alors qu'elle est normalement, chez le type sauvage, légèrement dentelée. Et ceci coïncide avec une expression de ces gènes sur le bord des feuilles, au niveau de la frontière entre les différentes dents en formation. Alors, ces gènes ont-ils un rôle au cours du développement de la feuille composée ? La réponse est oui. Donc, on voit ici, par exemple, une feuille de pois au cours de son développement, les petits primordiums de folioles, et on voit que ces gènes, à nouveau, voient leur expression confinée et limitée à la zone frontière entre les différents primordiums. Cette expression, on peut la retrouver chez un grand nombre d'espèces qu'on a testées, et ceci, qu'il s'agisse, entre guillemets, d'espèces à Nox ou à Liffy. Donc ça semble être un système universel et qui transcende cette distinction entre les espèces Nox et Liffy. Donc, quelle est vraiment leur fonction ? Seule une analyse fonctionnelle nous permet de répondre. Et par exemple, si on part de la feuille de cardamine, si on inactive ces gènes, on va voir un certain nombre de modifications. On va voir ici un lissage du bord des folioles, comme ce qu'on avait vu chez les mutants d'Arabidopsis. Mais on observe aussi des fusions entre les folioles et une diminution de leur nombre, puisqu'ici, on a des segments de pétiole dépourvus de folioles. Et on retrouve des phénotypes tout à fait similaires chez des espèces très éloignées, comme chez l'encolie, on passe de cette feuille-là à une structure très simple, ou chez la tomate. Donc ces gènes semblent définir tous les types de découpes de bord de la feuille, qu'il s'agisse de découpes très fines, comme ici par exemple juste au niveau de la foliole, ou des découpes beaucoup plus profondes pour séparer les folioles entre elles. Alors si j'essaye de résumer tout ça dans ce petit modèle très, très simplifié, comment est-ce qu'on arrive à faire une feuille composée ? On part du méristème. On commence par initier un primordium de folioles. Le primordium de feuille est déterminé par un pic d'auxine qui va permettre l'extinction des gènes NOX, ce qui est représenté ici par cette zone blanche. Puis, très rapidement, et contrairement aux espèces à feuilles simples, les gènes NOX vont être réallumés, ce qui va permettre de maintenir ou de prolonger l'identité pseudo-méristématique, empêcher la zone de se différencier trop rapidement. Arrive l'initiation du foliole, de la foliole, avec un nouveau pic d'auxine ici, extinction des gènes NOX, définition de la zone frontière grâce à l'activité des gènes NAM et CUC. Puis, enfin, la croissance de la foliole, avec donc extinction des gènes NOX, qui permet l'activation de la voie JBRL-in, et donc croissance et différenciation. Alors, une question qui est vraiment lancinante dans le domaine de l'analyse des feuilles, c'est de savoir quelle est leur origine. Alors, on sait du point de vue phylogénétique que les feuilles composées sont apparues plusieurs fois de façon indépendante et ont aussi disparu de façon indépendante. Donc, au sein des différentes espèces, il ne s'agit pas de structures homologues. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à avoir une feuille composée ? Il y a deux façons. On peut prendre une feuille simple qu'on dissèque à l'extrême, et dans ce cas-là, l'ensemble de la feuille composée serait l'homologue d'une feuille simple, ou au contraire, on prend toute une section, tout un segment de tige avec plusieurs feuilles qu'on va compresser pour arriver à une feuille composée, et dans ce cas-là, chaque foliole serait l'homologue d'une feuille simple. Alors, est-ce que les données moléculaires et génétiques que je vous ai présentées avant permettre de choisir entre les deux hypothèses? Ben malheureusement, non, parce que la plupart des arguments peuvent être utilisés dans les deux sens. Donc, par exemple, si je prends juste l'argument des pics d'auxine, je vous avais dit que les pics d'auxine étaient associés à la formation des folioles. On retrouve ces pics d'auxine aussi au sommet des primordiums de feuilles. Donc ça serait un argument pour dire que les feuilles sont, enfin que les folioles sont l'homologue des folioles. Malheureusement, au niveau des feuilles simples, ici découpées, on a également des pics d'auxine au niveau des dents. Donc on retrouve ça également aussi au niveau des feuilles des dents. Donc cet argument, par exemple, ne permet pas de discriminer entre les deux hypothèses. Et pour l'ensemble des arguments que je vous ai présentés, on arrive à peu près au même type de contradiction, enfin de difficulté. Donc alors les questions qui subsistent encore, c'est quelles sont vraiment les différences fondamentales entre feuilles simples et feuilles composées. Peut-être une façon d'approcher ça, ça serait non pas de partir d'une feuille composée et d'essayer de voir quels sont les éléments nécessaires au développement de la feuille composée, mais de partir au contraire d'une feuille simple et d'essayer de reconstruire une feuille composée. Une autre question lancinante, c'est, puisque l'ensemble des éléments que je vous ai présentés sont conservés, d'où vient la diversité morphologique? Donc, comment est-ce qu'on va utiliser différentiellement ces éléments conservés pour avoir les différents types d'architecture? Une question de fond, c'est finalement, est-ce qu'il y a une feuille composée ou plusieurs types de feuilles composées? Et un aspect qu'il faudrait également développer, c'est tous les aspects un petit peu cellulaires, de même type que ce que vous a présenté Yann Trass précédemment, c'est essayer de comprendre d'un point de vue plus cellulaire quels sont les événements qui ont lieu au cours du développement de ces feuilles composées ou feuilles simples. Et donc ce travail, enfin la dernière partie que je vous ai présentée sur les gènes NAM et CUC a été réalisée dans mon équipe. Donc je voudrais souligner le travail d'un thésard, Thomas Blin, qui a réalisé la plus grande partie de ce travail. On travaille également en collaboration avec une équipe à Oxford qui a développé le modèle Cardamine, qui est très utile puisqu'il permet de comparer directement des espèces très voisines à feuilles simples ou feuilles composées. Voilà, je vous remercie.
Bon, c'est un exercice redoutable. Je vais essayer d'être le plus synthétique et le plus concis possible. D'abord, je voudrais remercier les différents conférenciers qui ont fait des exposés absolument remarquables et clairs. Alors, je vais partir de l'idée initiale qui a été formulée dans l'introduction par Michel Caboche, qui distinguait le développement animal et le développement végétal en indiquant les spécificités de la partie végétale. Et la spécificité majeure, c'est que la plante fabrique des organes tout au long de sa vie. Alors que chez l'animal, il y a un prototype petit qui ensuite croît tout au long de la vie, enfin du moins jusqu'à un certain stade de la vie. J'ai retenu trois idées essentielles. La première, c'est que l'origine du développement, donc ça c'est un truisme, mais enfin faut le rappeler, se fait à partir de cellules souches, ça a été dit et redit plusieurs fois, localisées dans deux sites particuliers, la pointe racinaire et la pointe de la tige ou dans la graine au niveau de l'embryon. Et ces cellules souches ont été très bien étudiées sur des espèces modèles. On a beaucoup parlé d'espèces modèles, en particulier d'Arabidopsis, mais pas que d'Arabidopsis. Et ça m'a amené, en particulier lorsque j'ai entendu les explications sur le rôle du cytosquelette, ce squelette interne des cellules, qui intervient pour le guidage des polymères de cellulose et finalement la polarité dans le développement, ça m'a rappelé des travaux qui ont été initiés par Paul Green, que certains d'entre vous ont peut-être connu, qui a été prof à Stanford, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, qui il y a une cinquantaine d'années, donc je n'étais pas là quand il a fait ses premiers travaux, mais avait utilisé un modèle qui était la NITEL, une algue, et chez cette algue, il y a des cellules internodales qui sont cylindriques. Et il avait appliqué de la colchicine et il s'était aperçu que finalement ces cellules devenaient sphériques. Donc il en avait conclu à une interaction entre le cytosquelette et les microfibrilles de cellulose. Ensuite, il a beaucoup travaillé là-dessus avec d'autres techniques, notamment il a fait des empreintes avec des cires dentaires. Et il a montré finalement toute la crédibilité de son hypothèse sur l'importance de ces microfibrilles et sous-jacent le cytosquelette qui est derrière. Alors aujourd'hui, bien sûr, on utilise d'autres technologies, d'autres approches, des approches génétiques d'une part, et l'utilisation des nouveaux instruments apportés et développés par la physique, en particulier la microscopie confocale, ce qu'a très bien illustré Yann Trass avec les belles images qu'il nous a montrées. Le deuxième point dans ce volet sur l'origine du développement et élucider le développement, ce sont les liens entre les réseaux de gènes qui ont été illustrés à plusieurs reprises et la forme. Et la question, finalement, pour arriver à faire le lien entre les deux, la nécessité d'une approche pluridisciplinaire qui met en jeu, par exemple, la physique et aussi la mécanique. Il a été fait allusion à plusieurs reprises sur l'influence des facteurs environnementaux, par exemple très bien illustré sur la racine au niveau des carences en phosphate ou également en nitrate. Mais là encore, la notion de modèle, elle est importante pour faire progresser les connaissances, mais il faut savoir qu'il y a des racines, il y a des racines aériennes. Les racines ne sont pas seulement pour l'ancrage dans le sol. Et on trouve par exemple des racines aériennes dans les mangroves. Et pourquoi est-ce qu'il y en a dans les mangroves? C'est parce que les racines seraient en état d'anoxie et finalement feraient crever la plante. Donc il faut trouver d'autres systèmes d'adaptation. Et parmi les facteurs environnementaux très importants, dont on n'a bien sûr pas le temps de parler en une demi-journée, c'est l'importance de la lumière et aussi de la température. La lumière est une clé dans le développement, en particulier avec la mise en jeu de récepteurs aux lumières rouges et lumières bleues, ce qu'on appelle les phytochromes ou les cryptochromes. Il y a par contre une interrogation toujours sur l'existence de senseurs à la température. Chez les plantes, on n'a encore pas trouvé de senseurs à la température. Il y a une hypothèse qui court actuellement sur la possible implication des phytochromes comme senseurs aussi pour la température. La forme des plantes, il y a quelques années, ça avait fait la couverture de la revue Cell et ça avait fait un petit scoop dans les médias dont on a beaucoup parlé, pour avoir des plantes, par exemple, qui changent de forme sous l'action du vent, sous l'action des embruns, sous l'action du sable. Vous avez tous vu, par exemple, des coussinets en montagne ou au bord de mer ou dans les zones désertiques. Eh bien, ces formes, le coussinet, c'est la sphère. La sphère, c'est le volume qui a la plus petite surface. Eh bien, pour aboutir à des formes comme ça, il a été identifié des gènes impliqués justement toujours sur le cytosquelette, en particulier des calmodulines. C'est ce qu'on a appelé dans les années 90, si je me rappelle bien, les touch genes, ces fameux gènes de la caresse dont les journalistes se sont bien sûr gargarisés parce que c'est très joli à raconter. Alors au niveau maintenant toujours du fonctionnement du méristème, on ne faudrait pas partir avec l'idée que c'est la partie terminale qui donne les feuilles, puis de temps en temps, après la crise d'adolescence, hein, j'aime bien utiliser ce terme, pour les plantes, parce que c'est un petit peu comme chez les systèmes animaux, il y a des problèmes de régulation hormonale, de taille, etc., qui influent sur la mise à fleur. Eh bien, il ne faut pas que toutes les espèces, ça fonctionne comme ça. Chez les espèces tropicales, par exemple, on trouve des fleurs ou des fruits sur les rameaux ou sur les troncs. Pensez aux cabosses de cacao, par exemple. Et là, effectivement, le modèle classique nécessite une remise en cause du fonctionnement du méristème, probablement par des méristèmes néoformés sous l'écorce, puisque c'est vraisemblablement comme ça que ça doit se passer. J'en reviens toujours à cette notion d'espèce modèle. Encore une fois, c'est absolument indispensable pour faire progresser les connaissances, mais il faut aussi passer à des espèces différentes pour bien comprendre toutes les subtilités qui existent dans la biodiversité. Alors pour l'architecture, on a eu quelque chose de tout à fait intéressant, qui est la découverte d'une nouvelle hormone avec des applications potentielles, en particulier cette hormone qu'on a appelée strigolactone, avec toutes les démonstrations, ablations, équilibre, etc. Donc là, on a une 9e ou 10e classe d'hormones, parce que je crois qu'on peut rajouter les hormones protéiques que sont les systémines. Alors, le dernier point sur lequel je vais dire 2 minutes un certain nombre de choses, ça concerne les feuilles. Alors les feuilles sont des éléments importants chez les plantes puisque ce sont le siège de la photosynthèse, d'une part, et des échanges gazeux via les stomates, d'autre part, sachant que la photosynthèse, c'est aussi un système d'échanges gazeux, bien sûr. On a beaucoup parlé de feuilles entières, découpées, persillées, et l'implication de gènes, en particulier des gènes NOX, qui sont affiliés au gène OX chez l'animal, et je reviendrai sur ce point dans 30 secondes. Il a été fait allusion aussi aux feuilles de lierre. Les feuilles de lierre, comme chez beaucoup d'espèces tropicales, il y a ce qu'on appelle des phénomènes d'hétérophilie, c'est-à-dire que sur un même pied, il y a des feuilles de formes totalement différentes. Et pour le lierre, c'est la lumière qui est le facteur déterminant. On a aussi le même phénomène lorsque vous avez des plantes qui sont aquatiques. Dans nos régions, les renoncules aquatiques ont plusieurs formes de feuilles, suivant que les feuilles sont immergées, émergées ou flottantes. Donc là, on a des cas d'hétérophilie extrêmement marqués qu'il faudrait aussi creuser, outre les phénomènes de polarité dont on a beaucoup parlé, ou de transformation. Les feuilles qui se transforment en épines, par exemple, chez les cactées, c'est aussi des feuilles, hein, même si ça ne ressemble pas du tout à des feuilles. Il a été fait allusion au rôle des petits ARN dans le contrôle. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on commence à appréhender, mais on ne connaît pas, on est loin s'en faut, le rôle de tous ces petits ARN. Alors pour terminer, je vous ai dit que je reparlerai des gènes NOX et des gènes OX. Il y a une idée qui avait été formulée par Goethe. Alors moi, j'aime bien l'histoire des sciences. Donc Goethe, que vous connaissez tous par Werther, Faust, etc. Mais Goethe avait beaucoup, beaucoup fait des observations en botanique, en particulier lorsqu'il a été hébergé par le duc de Weimar, qui était le sponsor, on dirait aujourd'hui, de toute l'activité culturelle pendant le siècle des Lumières. Et Goethe avait, à la suite de ses observations, fait élaborer une théorie qu'il a appelée la théorie de la métamorphose. Et cette théorie de la métamorphose, qu'il a publiée en 1790, a été validée en 1991 par les travaux de génétique du développement, en particulier sur la fleur. C'est ce qui a donné naissance au fameux modèle ABC. Mais quelques années plus tard, donc à peu près une dizaine d'années plus tard, on a trouvé de nouveaux gènes impliqués dans le développement de la fleur, les gènes E. Et finalement, aujourd'hui, on est dans le modèle ABCE. Et que dit ce modèle ABCE? Il dit que finalement, l'unité de base, c'est la feuille. Et c'est exactement ce que Goethe avait écrit, puisqu'il cherchait une unité dans le développement végétal. Et pour lui, l'unité de base, c'était la feuille. Donc, on rejoint là la partie identité des gènes OX, animal, identité du végétal avec la feuille. Voilà, merci.
Christian Dumas, membre de l'Académie des sciences, biologiste et botaniste, concluait cette séance conjointe de l'Académie des sciences et Académie nationale d'agriculture qui avait lieu en mars 2009 à l'Institut de France. Au cours de cette retransmission, vous avez pu entendre les interventions de Catherine Rameau, directeur de recherche à l'INRA, station de génétique et amélioration des plantes à Versailles, et Patrick Laufs, directeur de recherche à l'INRA au laboratoire de biologie cellulaire à Versailles. Restez à l'écoute de Canal Académie et téléchargez la première partie de la retransmission de cette séance sur le développement végétatif des plantes. Elle est en libre écoute sur canalacademy.com. Merci et à bientôt pour de prochaines retransmissions.